Content d'être avec vous, chers amis, et de vous voir. Bienvenue à vous si vous êtes là pour la première fois, si vous nous rejoignez ou si c'est les premières fois que vous venez. On est heureux que vous soyez parmi nous et on espère que cette église vous aidera à découvrir un peu plus sur la foi chrétienne, découvrir un peu plus sur Jésus et sur ce que la parole de Dieu enseigne. Il n'y a pas effectivement de réunion cette semaine, il n'y a pas de groupe de quartier, on est en pause. Et la semaine d'après, ce sera réunion de prière, donc vous pouvez déjà bloquer la date le jeudi soir, le 7 mars, pour prier ensemble en tant qu'Église. Et c'est seulement la semaine suivante que les groupes de quartier reprendront. Et donc, comme vous l'avez vu, on commence une nouvelle série de prédications. C'est notre habitude dans l'Église de prêcher au travers de livres de la Bible pour voir ce que Dieu nous enseigne au travers de différents livres de la Bible. On a 66 livres dans la Bible, il y a beaucoup de richesses. Et on vient de terminer 2 Samuel. On a vu comment Jésus était le roi dont on a vraiment, vraiment besoin. Et on commence maintenant une nouvelle série dans le livre de Galates. Et on sera, Dieu voulant, dans ce livre de Galates jusqu'à la fin du mois de mai, quelque chose comme ça. Donc on a le temps de méditer sur ces versets semaine après semaine. Je vous invite à prier avec moi pour demander l'aide de Dieu pour comprendre sa parole. Prions ensemble. Oui, notre Dieu, on te remercie pour le privilège d'avoir la Bible sous les yeux, de pouvoir la lire, de pouvoir la comprendre, de pouvoir savoir ce que tu nous as enseigné, ce que tu as voulu nous faire connaître. On te prie, notre Dieu, qu'au travers de l'étude de ce passage ce matin, mais de toute la lettre aux Galates en général, on puisse découvrir plus sur la bonne nouvelle de se savoir juste devant toi, non pas par nos œuvres, mais par la foi en Christ. On te prie que la méditation de ces versets nous donne la liberté, la joie, la paix que l'on peut avoir en se sachant aimé par toi. Et on prie cela dans le nom de Jésus. Amen. Alors, certaines des questions que cette lettre aux Galates va nous aider à creuser, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut pour être un bon chrétien. Qu'est-ce qu'il faut pour vraiment plaire à Dieu au dernier jour? Qu'est-ce qu'il faut pour vivre dans la joie, dans la liberté de se savoir aimé par Dieu pour toujours? Qu'est-ce qu'il nous faut? La lettre aux Galates va nous montrer que la seule bonne réponse à cette question, c'est de répondre, il faut Jésus, et puis c'est tout. Il faut Jésus, et puis c'est tout. Ces chrétiens galates à qui cette lettre a été écrite entendaient des personnes autour d'eux qui leur disaient, « Ah, mais c'est super que tu aies cru en Jésus, c'est vraiment génial !» Mais maintenant, pour être vraiment un bon chrétien, pour faire vraiment partie du peuple de Dieu, de ceux qui plaisent à Dieu, tu dois faire ça. Et tu dois faire ça. En gros, pour vraiment plaire à Dieu au dernier jour, oui, il te faut Jésus. Mais il te faut Jésus plus autre chose. Jésus plus quelque chose d'autre. Pour vivre d'une manière dans la joie de se savoir aimé par un Dieu. Mais ce que cette lettre va nous montrer, c'est que ce que Jésus a fait sur la croix est suffisant pour nous donner une bonne relation avec Dieu pour toujours, pour qu'on soit juste et saint aux yeux de Dieu. Ce que Jésus a fait sur la croix et la foi que l'on place en lui est suffisant pour qu'on vive dans la joie, dans la liberté de se savoir aimé par Dieu pour toujours. Et on va voir qu'à partir du moment où on ajoute quelque chose à Jésus, à partir du moment où on dit que c'est Jésus plus quelque chose d'autre, on perd notre liberté, on perd notre joie, on perd l'Évangile. C'est pour ça que Paul a écrit à cette lettre. Imaginez que quelqu'un rentre dans votre bureau sans frapper à la porte. Il ouvre la porte sans rien dire, il ne dit même pas bonjour, et il commence tout de suite en disant « Je dois te parler ». Waouh ! Vous dites, c'est un peu bizarre, là, ça montre que c'est grave. Tu frappes même pas sur la porte, tu dis même pas bonjour. Ça montre que quelque chose de grave s'est passé. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans cette lettre aux Galates. C'est un peu Paul qui rentre dans la pièce sans frapper à la porte et qui dit, je dois vous parler. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Dans la plupart des lettres de Paul, Paul commence la lettre avec une prière de reconnaissance, où il remercie Dieu pour la foi de ses chrétiens. C'est ce qu'on voit en ce moment dans Colossiens, dans les groupes de quartier. Paul remercie Dieu pour la foi et l'amour des Colossiens. Même dans 1 Corinthiens, une église où il y avait plein de problèmes, l'église de Corinthe, Paul commence avec une prière de reconnaissance, en mentionnant quelque chose de positif, quelque chose de joyeux. Mais ici, dans Galates, dans cette lettre, on ne retrouve rien de tout ça. Paul se présente au verset 1 et 2 et dit à qui il s'adresse, c'est assez normal. Puis dans les versets 3 à 5 de notre passage du chapitre 1, Paul leur rappelle le contenu de l'évangile. On va revenir à ça et pourquoi c'est important. Mais ensuite, Paul ne prie pas pour eux. Paul ne mentionne rien de positif. Il va droit au but pour les reprendre, parce que quelque chose de grave s'est passé. Ce qui s'est passé de grave, c'est qu'en ajoutant des choses à Jésus, les Galates ont mis de côté le vrai évangile pour passer à un autre évangile, à un autre enseignement. Et ça, c'est vraiment grave. Le mot évangile, c'est un mot qui signifie bonne nouvelle. Vous savez peut-être ça, c'est ce que ça signifie ce mot. Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Dieu qui sauve en la personne de Jésus. Et on va voir aujourd'hui qu'il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre bonne nouvelle. Il y a un seul évangile qu'il faut préserver à tout prix. Vous avez le plan dans le feuillet de ce qu'on va méditer ensemble, ce qu'on va voir ensemble. Trois points ce matin à partir de ce texte. Le premier, la première chose qu'on voit dans ces versets, c'est que les autres évangiles sont attirants. Les autres évangiles sont attirants. Regardez au verset 6 et 7 de notre texte. Paul écrit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. » Il y a des gens qui troublaient ces chrétiens, ces chrétiens galates, des gens qui pervertissaient l'évangile. On l'a dit, il disait qu'il leur fallait Jésus plus autre chose. Les Galates étaient des chrétiens qui n'étaient pas juifs, mais certains juifs qui se disaient chrétiens étaient venus chez eux pour leur dire « Ah, mais c'est très bien que vous ayez cru en Jésus, c'est vraiment une merveilleuse chose. Mais est-ce que vous saviez que pour être vraiment compté parmi le peuple de Dieu, il fallait vous faire circoncire ? Ah, personne ne vous a dit ça ? Si, il faut quand même, vous n'allez pas mettre la loi de Moïse à la poubelle. » La circoncision, c'est le signe que Dieu avait donné à Abraham, un signe physique pour pointer vers des promesses. Ce signe s'adressait au peuple de Dieu de l'Ancien Testament et délimitait qui faisait partie de ce peuple. Il y avait des faux enseignants qui étaient venus parmi les Galates pour leur dire qu'ils devaient, même en tant que chrétiens, être circoncis pour faire vraiment partie du peuple de Dieu. Ils devaient encore suivre certaines lois de l'Ancien Testament pour vivre dans la joie de se savoir aimé par Dieu. On ne va pas voir ça en détail ce matin, on verra ça plus tard dans la suite du livre de Galates qui montrera ça. Mais c'est un peu comme s'il disait, pour vraiment plaire à Dieu au dernier jour, il faut Jésus, mais il faut Jésus plus la circoncision. Jésus plus l'obéissance à la loi. Et Paul écrit, pour montrer qu'avoir Jésus plus autre chose, c'est perdre Jésus, c'est pervertir l'évangile. C'est ce que ces faux enseignants ont fait, et la conséquence, c'est que ces chrétiens galates se sont détournés de Dieu pour passer à un autre évangile. Et on voit dans ces versets que Paul s'étonne. Il dit au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Paul est vraiment bouche bée. Il a annoncé l'évangile à ces chrétiens. Ils se sont convertis. Et maintenant, en si peu de temps, ils se détournent de cet évangile, ils se détournent de cette bonne nouvelle pour passer vers un faux évangile. Comment est-ce que c'est possible ? C'est un peu comme un petit enfant. Si vous voyez des enfants autour de vous, vous savez qu'ils ont un temps d'attention très limité, n'est-ce pas ? Ils ont quelque chose sous les yeux, ils sont captivés par ça, et puis hop, il y a quelque chose qui passe à côté, et c'est fini. Et puis hop, quelque chose d'autre. Ils passent d'un truc à l'autre avec un temps d'attention très limité. Et c'est un peu ça que les Galates ont fait. Ils ont commencé avec le vrai évangile que Paul leur a annoncé. Et puis rapidement, hop, ils sont passés vers autre chose. Ils se sont détournés pour passer à un autre évangile sans prendre le temps de réfléchir. Ce n'est pas un bon signe de maturité chrétienne. C'est plutôt un signe d'immaturité spirituelle, de passer d'un message à l'autre en fonction de ce qui capte le plus notre attention sans prendre le temps de réfléchir, sans prendre le temps de creuser. La Bible dit ailleurs que c'est être comme un enfant flottant et entraîné à tout vent de doctrine, joué par les hommes, avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. C'est comme un bateau qui se fait entraîner par les vagues sans pouvoir se contrôler. C'est important d'être conscient de ce danger, parce qu'au final, c'est une mise en garde pour chacun de nous. On est tous en proie à nous détourner de Christ. On est tous en proie à nous détourner du vrai évangile si on n'est pas vigilant. Et on doit rester sur nos gardes parce que ça peut arriver de manière subtile, sans renier explicitement l'évangile, mais en mettant constamment l'accent sur autre chose. On est attiré par un autre aspect de la vie chrétienne et on va mettre l'emphase que sur ça, en oubliant de parler de l'évangile, en oubliant de nous rappeler à nous-mêmes l'évangile. Certains vont mettre l'accent sur les miracles, sur le succès dans la vie chrétienne, sur la manière dont la Bible peut nous aider à être une meilleure personne dans la vie de tous les jours. Et en mettant tellement l'accent sur ces choses, on oublie de parler du plus important. Il noie ce qu'il y a de plus important, l'évangile de la grâce, la bonne nouvelle du salut, Jésus qui s'est donné pour nos péchés. Je me souviens d'une connaissance qui était devenue passionnée par la fin des temps, mais d'une manière malsaine. C'est une très bonne chose de parler de la fin des temps, on l'a fait ce matin, à Formation et Foi, il y a beaucoup de choses que la Bible enseigne, mais cette personne était entraînée, était allée dans beaucoup de spéculations, en allant beaucoup plus loin que ce que la Bible enseignait, et ne faisait que de parler de ça, c'était le seul sujet qui comptait. Que d'enseigner cela, que de se nourrir de cela, sans plus parler de l'Évangile. Et cette personne, peu à peu, s'est détournée de l'Évangile, s'est détournée du message de la grâce, avait perdu de vue le plus important. Et donc de voir cela, de voir ces Galates qui se sont détournés, qui ont été attirés vers un faux évangile, c'est une mise en garde pour nous. Pour nous rappeler qu'on a besoin de racines profondes, si on ne veut pas être détourné par ce qui capte notre attention. On a besoin de racines profondes dans le vrai évangile. C'est ça la meilleure solution, le meilleur antidote, de connaître l'évangile, de s'enraciner dans le vrai évangile. Ce qu'il nous faut, c'est avoir nos pieds fermement posés dans la bonne nouvelle de la grâce. Il faut qu'on soit exposé et nourri régulièrement par cet évangile. Il faut que notre cœur se réjouisse dans cette bonne nouvelle du salut par laquelle Dieu nous a sauvés. Parce que si c'est le cas, alors on ne sera pas attiré par d'autres enseignements. On aura des racines tellement profondes qu'on saura reconnaître quand quelque chose nous est enseigné qui n'est pas conforme avec le vrai évangile. On dit parfois que ceux qui travaillent pour détecter les fraudes de faux billets doivent passer l'essentiel de leur temps à étudier les vrais billets. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que c'est ça qu'ils doivent faire. Ils apprennent par cœur sous toutes les formes les vrais billets. Comme ça, dès qu'un faux billet passe sous leurs yeux, hop, ils peuvent voir direct que ce n'est pas un vrai billet. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Si quelqu'un travaille dans ce domaine, vous pouvez venir me dire à la fin, comme ça je pourrais corriger ce que je dis. Mais en tout cas, c'est un peu ce qu'on est appelé à faire ici. On est appelé à connaître tellement bien le vrai évangile que quand un faux évangile passe sous nos yeux, c'est pas ça. C'est pas ce en quoi je crois. C'est différent de ce qu'on m'a enseigné. Alors la question pour nous, c'est où sont nos racines? Est-ce qu'on connaît suffisamment bien le vrai évangile? Est-ce qu'on est équipé pour détecter les erreurs? C'est l'un des buts des formations qu'on propose en tant qu'Église, de nous équiper pour qu'on grandisse dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de sa parole, pour qu'on puisse repérer quand quelque chose cloche, quand quelque chose ne va pas. Et c'est aussi pour ça que le choix d'une église est si important. On a besoin d'une église où le vrai évangile est non seulement le fondement, mais aussi le centre, où cet évangile est annoncé régulièrement, où cet évangile est expliqué régulièrement, où tout est centré sur la bonne nouvelle de Jésus, où l'évangile est vu comme la chose la plus précieuse au monde, ce qu'il faut conserver, quoi qu'il en coûte. C'est essentiel pour nous d'avoir cela, pour que nos racines soient plantées au bon endroit, pour que notre attention ne soit pas détournée vers d'autres messages. Plusieurs d'entre vous, vous allez quitter cette église à un moment donné, vous allez déménager ailleurs pour différentes raisons, retourner là où vous étiez ou quoi que ce soit, et on espère qu'alors que vous pensez à déménager, l'un des premiers critères dans votre liste, c'est de trouver une église, de trouver une église qui enseigne fidèlement le vrai évangile, pour être nourri spirituellement, pour survivre spirituellement. Et pas juste n'importe quelle église qui se dit chrétienne ou protestant ou évangélique, mais de regarder derrière quel est le message qui est enseigné. Est-ce que c'est conforme au vrai évangile? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'amener à puiser les racines dans le vrai évangile, à détecter les faux enseignements? Ce n'est pas juste pour cocher une case dans la vie chrétienne, mais c'est vital pour notre survie spirituelle. Les autres évangiles sont attirants. La deuxième chose qu'on voit dans ces versets, c'est que les autres évangiles ne sont pas de bonnes nouvelles. Les autres évangiles ne sont pas de bonnes nouvelles. On le voit à la fin du verset 6, ils sont passés à un autre évangile, et Paul commence au verset 7, « Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. » Paul le dit clairement, il n'y a pas d'autre évangile. Oui, il y a plein d'autres messages qui prétendent être des évangiles, qui prétendent être des bonnes nouvelles. Oui, les Galates se sont détournés pour aller vers un autre évangile, pour aller vers une autre bonne nouvelle, mais ce n'est pas du tout un évangile. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est qu'une contrefaçon du vrai évangile, une contrefaçon médiocre. Il y a un seul vrai évangile. Et modifier cet évangile, ajouter à cet évangile, dire qu'il faut Jésus plus autre chose, c'est le corrompre. Et on comprend pourquoi avec ce que Paul dit dans les versets 3 à 5. Paul rappelle dès le tout début de sa lettre le contenu de cet évangile pour montrer aux Galates ce qu'ils ont perdu. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà ce qu'offre le vrai évangile, le pardon des péchés. Aucun autre message ne peut donner le pardon des péchés. Notre péché nous condamne devant Dieu. Dieu est saint, Dieu est parfait, Dieu est pur, Dieu est celui qui a tout créé, celui à qui on est redevable, celui à qui on doit la vie. Et nous, on est tout le contraire de cela. On n'est pas parfait, on n'est pas pur, on n'est pas indépendant comme Dieu l'est, on transgresse ce que Dieu attend de nous, on préfère faire ce que l'on veut plutôt que ce que Dieu veut. On est comme des criminels qui ont enfreint la justice divine. On est sous la colère de Dieu, la juste colère de Dieu, la condamnation de Dieu. On est coupable, on est condamné et on est incapable de nous sauver nous-mêmes. Et il y a plein d'évangiles, de bonnes nouvelles qui essayent d'apporter des solutions à ce problème. Des soi-disant évangiles, des soi-disant bonnes nouvelles. Certains disent, mais il faut ignorer Dieu. Il faut ignorer le jugement. Vis ta vie, ne t'occupe pas de l'avenir. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça ne règle pas le problème. S'il y a un jugement, il ne faut pas l'ignorer. Il faut s'y préparer. Il faut le prendre en compte. Sinon, c'est qu'empirer le problème et le retarder. D'autres religions disent, il faut que tu fasses du bien. Sois une bonne personne. Aime les autres. Essaye de faire de ton mieux pour plaire à Dieu. Et il te pardonnera. Mais ça non plus, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça ne marchera jamais. Le bien que l'on a fait ne pourra jamais effacer le mal que l'on a déjà fait, la condamnation de nos fautes devant Dieu. Comme si avec quelques bonnes actions, on allait pouvoir apaiser la juste et sainte colère de Dieu. Non, le seul vrai évangile, la seule vraie bonne nouvelle, c'est celle qui dit que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés. Comme il est dit aussi au verset 4, Jésus qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Et dans cette petite phrase, on a toute la merveille, on a toute la splendeur du vrai évangile. Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde, envoyé par le Père. Il a vécu une vie parfaite d'obéissance à Dieu, sans aucun péché. Et il est mort sur la croix, comme un criminel. En portant sur lui la colère de Dieu que l'on mérite, il s'est donné lui-même pour nos péchés. Pour qu'en plaçant notre foi en Jésus, on puisse être totalement pardonné de tous nos péchés, libéré de la colère de Dieu, arraché, comme il est dit, à ce présent siècle mauvais, délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Et tout ça, pas grâce à Jésus plus quelque chose d'autre, mais grâce à Jésus. Et puis c'est tout. Jésus, point à la ligne. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui offre réellement le pardon des péchés, qui offre réellement et éternellement une solution au problème du péché. La paix avec Dieu, la joie de se savoir aimé par lui. Pas sur la base du bien que l'on pourrait faire, pas sur la base de nos performances, mais sur la base de sa grâce et de sa bonté envers nous. Et c'est ça le vrai enjeu dans cette lettre. Comment avoir le pardon de nos péchés? Comment être en paix avec Dieu? Comment vivre dans sa présence bienheureuse pour toujours, plutôt que sous sa colère pour toujours? Et les faux enseignants dans cette lettre, ils étaient totalement à côté de la plaque. En ajoutant des choses à l'évangile, en disant qu'il fallait Jésus plus quelque chose d'autre, ils mettaient de côté le vrai évangile. En disant qu'il fallait Jésus plus quelque chose, c'est comme s'ils disaient que ce que Jésus a fait sur la croix n'est pas suffisant. Il faut ajouter quelque chose d'autre pour qu'on soit vraiment en bonne relation avec Dieu, pour qu'on plaise réellement à Dieu. Il faut quelque chose d'autre en plus de la mort de Jésus. Et ce que les Galates perdaient en les écoutant, ce n'était pas un simple petit détail de théologie, mais c'était le salut lui-même, le pardon des péchés lui-même. Et pour voir ça, ça aide de réfléchir à la question suivante. Sur quelle base Dieu devrait nous laisser entrer au paradis? Si nous sommes pécheurs, si Dieu est saint, alors pourquoi est-ce que Dieu devrait nous laisser vivre dans sa présence pour toujours? La réponse que ces faux enseignants donnaient, c'est quelque chose un peu comme ça. Oui, c'est à cause de Jésus, c'est vrai, mais c'est aussi parce que j'ai été circoncis. C'est aussi parce que j'ai respecté en partie la loi. Il faut les deux, Jésus plus quelque chose. Ça, c'est essayer d'être juste devant Dieu par nos œuvres. C'est dire que ce que Jésus a fait à la croix n'est pas suffisant. C'est ajouter quelque chose à Jésus. Et on est tous tentés de faire cela. On le verra plus en détail dans la suite des prédications, mais on est tous tentés de mal répondre à cette question. Sur quelle base Dieu devrait-il nous laisser entrer au paradis? Oui, parce que Jésus, mais aussi parce que j'ai été à l'église régulièrement, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, parce que j'ai vécu une meilleure vie que ceux qui m'entourent, parce que honnêtement, j'ai eu plein de galères, et Dieu comprendra. Rien de cela ne marchera. Aucune de ces réponses ne règle réellement le problème de notre péché. Aucune de ces réponses n'enlève la condamnation qu'on mérite. La seule bonne réponse à cette question, ce n'est pas parce que j'ai, mais c'est parce que Jésus. Parce que Jésus s'est donné pour mes péchés. Alors je peux entrer dans la présence de Dieu pour toujours. Et ce n'est pas parce que Jésus plus quelque chose, mais c'est parce que Jésus, et puis c'est tout. Je peux vivre dans la présence de Dieu pour toujours. C'est suffisant ce que Jésus a fait sur la croix, largement suffisant. Il n'y a rien besoin d'y ajouter. Et dès qu'on ajoute quelque chose, c'est là qu'on corrompt l'évangile. Dire qu'on est sauvé par Jésus plus quelque chose, c'est modifier totalement la bonne nouvelle. C'est enlever ce qui rend la bonne nouvelle vraiment une bonne nouvelle. C'est transformer un message de salut en un message de condamnation. L'évangile, ce n'est pas comme du jus d'orange qu'on achète au supermarché. Vous savez, le jus d'orange, quand on l'achète, on peut acheter le jus d'orange 100% pur jus d'orange. Et puis, à côté, dans le rayon ou en bas, suivant les magasins, il y a 100% fruits. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Il y a 100% jus à partir du concentré. Voilà, il y a différentes choses. Ils disent tous 100%, mais c'est vraiment des trucs différents. Et puis, on sait très bien que dans certains, il y a juste 50% de jus d'orange et 50% d'autres choses, ou 30% et 70% ou 5% et 95%. Mais bon, c'est toujours du jus d'orange, n'est-ce pas? C'est du jus d'orange de moins bonne qualité, c'est du jus d'orange un peu moins cher, mais on appelle toujours ça du jus d'orange. Mais l'évangile n'est pas comme ça. On ne peut pas avoir un évangile à 70%. On ne peut pas avoir un évangile même à 99%. C'est soit le vrai évangile, la bonne nouvelle du salut par grâce, Jésus, et puis c'est tout. soit c'est un faux évangile, où on ajoute quelque chose, où on essaye même d'ajouter la chose la plus minime à l'évangile. Dire Jésus plus un tout petit truc, c'est plus l'évangile. C'est la distinction entre un vrai évangile qui apporte le salut et un faux évangile qui condamne éternellement. Et c'est pour ça que les faux évangiles sont des contrefaçons médiocres du vrai évangile. C'est un peu comme prendre un médicament qui guérit les gens d'une maladie grave et changer la recette pour en faire une contrefaçon un peu moins chère. Mais en changeant le médicament, il ne guérit plus. Ben, ça ne sert plus à rien. Ce n'est plus un médicament. Ça ne guérit plus. On peut le jeter à la poubelle. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas avoir peur, à la lumière de cela, de rejeter les faux évangiles. On vit dans un monde où ce qui compte le plus, c'est la tolérance. Il faut se tolérer les uns les autres, même si l'on pense différemment. Il faut apprendre à vivre ensemble, à ne pas offenser les autres par nos opinions, à savoir accepter la vérité de l'autre. Alors bien sûr qu'on veut avoir du respect les uns envers les autres, bien sûr qu'on veut savoir écouter même ceux qui pensent différemment de nous, sans se taper dessus. Bien sûr qu'on veut aimer tout le monde en tant que chrétien, même ceux qui ne partagent pas nos convictions. Et c'est triste de penser que les chrétiens n'ont pas toujours bien fait cela. Non, on veut faire cela. Mais aimer et tolérer ne veut pas dire que tout le monde a raison. Aimer et tolérer ne veut pas dire que chacun a sa vérité. On doit pouvoir, dans le respect, dans l'amour, discerner la vérité de l'erreur. Ça n'aide personne de dire que tout le monde a raison, surtout quand on parle de ces questions-là. Il faut oser dire qu'il y a un seul moyen d'être en bonne relation avec Dieu, et que c'est au travers de Jésus. Les autres religions se trompent. Tout autre message qui n'est pas conforme avec la Bible se trompe, même si se dit chrétien. Dire ça, ce n'est pas être intolérant, mais c'est simplement affirmer qu'il y a un seul moyen d'être pardonné de nos péchés, et c'est en Jésus. C'est avec Jésus qui s'est donné lui-même pour nos péchés. La foi n'est pas comme une montagne où il y aurait plusieurs chemins qui mènent au même Dieu. Non, il y a un seul chemin qui mène au sommet. Tous les autres chemins sont des impasses, des fausses pistes qui ne mènent pas au sommet, mais qui mènent dans le ravin. Et on doit vraiment comprendre et réaliser qu'il ne s'agit pas ici juste d'un détail. Regardez au verset 6 que Paul dit. « Je m'étonne de quoi ? Que vous vous détourniez si vite de qui ? De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. » En allant vers un autre évangile, les Galates se sont détournés de Dieu lui-même. En allant vers un autre évangile, ils n'ont pas juste laissé le vrai évangile, mais ils ont aussi mis de côté Dieu lui-même. C'est ça qui est en jeu. Si on perd l'évangile, on s'éloigne de Dieu. Même si en apparence ce faux évangile est religieux, ou s'il parle de Dieu. Et si on y pense, les faux enseignants, chez les Galates, ils parlaient de Dieu. Ils leur promettaient que, par la circoncision, par le respect de la loi de Moïse, ils allaient être plus proches de Dieu. Ces chrétiens pensaient même écouter ces messages en honorant Dieu. Et pourtant, ils faisaient cela tout en se détournant de Dieu. Peu importe à quel point un enseignement sonne religieux, peu importe à quel point un enseignement parle de Dieu, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de savoir si c'est fidèle au message de l'Évangile. Savoir si ça ne dit pas Jésus plus quelque chose. Et c'est là où je crois qu'on peut être facilement aveuglé par le catholicisme romain, par exemple. On pense au catholicisme et on voit qu'on utilise le même langage. Il parle aussi de Dieu, de Jésus, du salut, de la vie de disciple, de grâce. On peut se dire, quel est le problème ? Oui, ils sont différents, mais ils sont très proches de nous. Et pourtant, avec grâce, avec compassion, pas du tout avec haine, avec volonté de rester amis, de s'entendre bien, on doit quand même réaliser que derrière ce langage et derrière ce que nous avons en commun, c'est un tout autre évangile. Ce que le catholicisme enseigne, toujours aujourd'hui de manière officielle, c'est une manière d'être juste devant Dieu, non pas par la foi seule en Jésus, mais par Jésus plus quelque chose. Par Jésus plus notre fidélité, par Jésus plus le bien que l'on fait. On va voir dans d'autres prédications, notamment dans 2 semaines, plus en détail en quoi c'est le cas et comment se positionner face à cela, même en tant qu'Église. Mais on doit être conscient que si c'est le cas, il ne s'agit pas juste d'un détail. Et on peut se dire ça facilement, mais est-ce qu'on ne peut pas juste vivre ensemble et s'accepter les uns les autres ? Oui, bien sûr, on veut avoir du respect les uns envers les autres, on veut échanger, continuer à discuter les uns envers les autres, être amis les uns avec les autres. Et on se dit, mais on a tellement en commun avec les catholiques, la Trinité, l'éthique chrétienne et plein d'autres choses, est-ce qu'on ne peut pas juste les considérer comme nos frères et sœurs en Christ ? Pourquoi se chamailler sur un petit détail ? C'est vrai qu'on a beaucoup en commun, mais ce que certains appellent un petit détail, la Bible appelle la base sur laquelle la foi chrétienne tout entière repose. La base sur laquelle notre salut éternel repose. Dire Jésus plus quelque chose, c'est comme on l'a dit, la différence entre un vrai évangile, un évangile qui sauve, et un faux évangile, un évangile qui ne sauve pas, un évangile qui condamne. C'est pour cela que l'œcuménisme, le fait de rassembler tous ceux qui se disent chrétiens ensemble, n'est pas une option. Il y a un seul évangile, et à partir du moment où on le change, même un tout petit peu, on a perdu l'évangile. On s'est détourné de Dieu. Et notre dernier point accentue cela encore plus. 3e point, les autres évangiles sont à rejeter, quoi qu'il en coûte. Ces versets suivants, versets 8 et 9, appuient encore plus l'importance de garder le vrai évangile et de rejeter tous les autres. Voilà ce que Paul écrit. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Être anathème, ça signifie être maudit, être sous la malédiction de Dieu, être sur le chemin de la perdition éternelle, sous la condamnation de Dieu, pour toujours. Et vous voyez ce que Paul dit ici ? Paul dit que ceux qui enseignent un autre évangile, ceux qui enseignent un faux évangile, doivent être déclarés anathème, sous la malédiction de Dieu, pour toujours. Ça montre à quel point c'est grave de prêcher un évangile différent de celui que la Bible enseigne. L'enjeu est sérieux. Ce n'est pas juste une petite erreur, ce n'est pas juste une différence d'opinion, mais il s'agit de la différence entre le salut éternel et la condamnation éternelle. On ne rigole pas avec l'évangile, parce qu'il est question de vie ou de mort, de salut éternel ou de condamnation éternelle. Et ceux qui privent des gens du vrai évangile en enseignant un faux évangile seront jugés. Mais ces versets montrent aussi notre responsabilité en tant qu'Église, de détecter les faux enseignants. Ici, Paul écrit pour reprocher aux Galates de ne pas avoir chassé ces faux enseignements de leur Église. Il ne s'adresse pas ici aux anciens, il ne s'adresse pas ici aux responsables de l'Église, mais il écrit aux membres de l'Église en leur disant « Mais pourquoi est-ce que vous n'avez rien fait ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réagi quand quelqu'un vous disait qu'il fallait Jésus plus quelque chose ?» C'est la responsabilité de chacun dans l'Église de préserver la vérité de l'Évangile. Imaginez qu'un prédicateur vienne en visite à Woluwe et prêche un évangile différent. Prêche Jésus plus quelque chose. J'espère que vous réagirez. J'espère que vous ne direz pas « Ah, mais les anciens l'ont invité, donc ils doivent être d'accord. Ça doit être quelqu'un de bien. » Non, si ce qui est enseigné est différent du vrai évangile, de salut par grâce, alors vous devez faire quelque chose. Vous devez aller parler à un ancien, à une autre personne, aller voir cette personne et la reprendre avec amour. Et de la même manière, si on voit dans l'Église quelqu'un qui se détourne de l'évangile, c'est notre responsabilité de prendre ça au sérieux, d'avertir dans la douceur, de mettre en garde contre les enseignements erronés. Ce n'est pas qu'on veut se contrôler les uns les autres, mais c'est qu'on réalise à quel point c'est grave de se détourner du seul vrai évangile. Et donc on veut le faire par amour. Et on veut que les gens nous aiment de la même manière, en nous reprenant, si nous-mêmes on s'égare. Et je ne sais pas si vous avez fait attention qu'on est appelé à rejeter les faux évangiles, peu importe la personne qui l'annonce. Paul dit au verset 8, « Même si nous-mêmes, Paul, l'apôtre, envoyé par Dieu, ou même si un ange venu du ciel annonce un évangile différent, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit éternellement. Même si c'est Paul, l'apôtre, qui se présente parmi nous, même si un ange nous apparaissait ce matin et annonce un évangile différent, on doit le rejeter. Parce que ça ne dépend pas du crédit de la personne qui parle, de son autorité, mais ça dépend du message, ça dépend du contenu. Il y a plein de gens aujourd'hui qui s'appellent apôtres, ou prophètes, ou enseignants, ou pasteurs. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'ils disent qu'ils sont, mais ce qui compte, c'est ce qu'ils disent, tout court. C'est le contenu qu'ils enseignent, leur message. Si ce n'est pas conforme au vrai évangile, si ce n'est pas conforme à la pureté de la parole de Dieu, alors il faut le rejeter. Si on écoute un prédicateur sur YouTube, ce qui compte pour savoir si ça vient de Dieu ou pas, ce n'est pas le fait que la personne parle de Dieu. Ce n'est pas le nombre de vues. Ce n'est pas le nombre d'abonnés. Ce n'est pas le fait qu'un ami nous l'ait recommandé, même si c'est quelqu'un qui nous l'envoie en disant « Ah, mais ça m'a fait vraiment du bien. Tu verras, écoute ça, ça va te faire du bien. » Ce qui compte, c'est le contenu du message, le contenu qui est enseigné. Est-ce que c'est fidèle au vrai évangile? Si le contenu est différent, alors il faut le rejeter, peu importe le crédit qui semble y avoir. Et j'ai l'impression que dans notre monde digital, on est parfois beaucoup trop naïf par rapport à ça. Quelqu'un nous envoie quelque chose sur WhatsApp et on se dit ben, « forcément, ça va être bien ». Attends, c'est une bonne personne, chrétienne, religieuse, qui aime le Seigneur, qui m'a envoyé ça. Forcément, ça va être bien. Mais on doit réaliser que les faux évangiles peuvent être partagés avec les meilleures des intentions, sans être conscient qu'on est en train d'ajouter des choses à l'évangile. Et la suite des études dans la lettre aux Galates nous aidera à voir cela. Et enfin, on voit qu'il faut rejeter les faux évangiles, même si ça nous coûte. Paul pose une question au verset 10, c'est le seul verset qu'on n'a pas vu, on va terminer gentiment avec cela. Et maintenant, au verset 10, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Les faux enseignants accusaient probablement Paul de chercher à plaire aux Galates. Ils accusaient probablement Paul de prêcher un demi-évangile. Bah, Paul, il n'ose pas vous dire qu'il faut se faire circoncire, en fait. Il vous prêche que la moitié des choses. Il ne veut pas vous offenser. Il ne vous dit pas tout. Mais Paul les reprend ici en disant, « Attendez, je viens de vous dire que ceux qui annoncent un autre évangile doivent être maudits éternellement. Vous pensez vraiment que je cherche à plaire aux hommes après ça? Vous pensez vraiment que mon but, c'est de chercher à plaire aux hommes? Non, plutôt ce qui compte pour Paul, c'est de plaire à Dieu. C'est d'être fidèle au vrai évangile, quoi qu'il en coûte, même si ça implique de dénoncer certaines personnes. Et ça va coûter de dénoncer les faux évangiles, d'oser dire à quelqu'un qu'il n'a pas raison, que ce qu'il enseigne n'apporte pas le salut, ne vient pas de Dieu, d'oser ne pas être en communion fraternelle avec ceux qui ne croient pas dans l'évangile biblique. Ça coûte, mais on doit le faire quand même. Comme on l'a vu, l'enjeu est trop important. Il est question de vie ou de mort, de salut éternel ou de condamnation éternelle. Si on reprend l'image d'un médicament, imaginez ce médicament qui guérit d'une maladie mortelle, et puis vous voyez cette personne changer la recette du médicament. Ce médicament ne guérit plus, il ne fait plus rien. Et vous voyez cette personne continuer à donner ce médicament un peu partout, à ceux qui sont malades. Bah, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on dit rien parce qu'on doit être tolérant? Chacun doit avoir sa vérité? Il faut accepter de vivre ensemble? Non, on intervient. On prévient les gens que ce médicament ne guérit pas. Il ne va pas vous apporter ce que vous pensez. On met en garde et on veut donner aux gens le vrai médicament. Et c'est la même chose, ce texte nous a appris, en ce qui concerne l'évangile. On veut prévenir les gens, leur dire que le faux évangile ne sauve pas. Et prévenir à quel point c'est grave de se détourner du seul vrai évangile. Alors pour conclure, vous savez probablement qu'il y a 500 ans en Europe, il y a eu la réforme protestante au XVIe siècle, un mouvement de personnes qui se sont levées au même moment pour dénoncer les faux évangiles qui étaient partout autour d'eux, qui ont combattu pour préserver la vérité de l'évangile. Et il faut bien comprendre que ce mouvement-là, ce n'était pas la naissance d'une nouvelle religion. Ce n'était pas une division du christianisme, mais c'était plutôt un mouvement pour préserver la vérité de l'évangile, pour préserver le seul vrai évangile qui a été confié aux apôtres au 1er siècle et qui doit être maintenu tel quel, pour revenir au message que la Bible enseigne, pour proclamer que pour être juste devant Dieu, il faut Jésus, et puis c'est tout. Et le combat continue pour nous aujourd'hui de réaliser cela, que l'évangile est ce qu'il y a de plus précieux. On fait ça de manière différente, en étant clairs nous-mêmes, d'abord sur le contenu de cet évangile. On fait ça alors qu'une personne avertit une autre dans l'Église par rapport à un faux enseignement. On fait ça alors qu'en tant qu'Église, on prie pour que le vrai évangile continue à être annoncé semaine après semaine. On fait ça alors qu'on refuse, en tant qu'Église, de se diviser sur des sujets mineurs, sur des sujets secondaires, pour garder l'unité précieuse autour du vrai évangile. On fait ça alors qu'on n'a pas peur de dire que certains enseignements ajoutent des choses à l'évangile, à la suffisance de Jésus. On fait ça alors qu'on se réjouit nous-mêmes du vrai évangile par lequel on a été sauvés par pure grâce. On fait ça alors qu'on s'examine nous-mêmes pour voir si on n'est pas en train de penser que la manière d'être juste dans la vie chrétienne, d'être dans la joie, dans la liberté devant Dieu, c'est avec Jésus plus quelque chose. Et on reviendra là-dessus dans les prochaines prédications. Et on fait ça, enfin, alors qu'on continue à croire et proclamer que pour vraiment plaire à Dieu au dernier jour, pour vraiment vivre la liberté et la joie, il n'y a rien d'autre besoin que Jésus. Il faut Jésus, et puis c'est tout. Prions ensemble pour terminer. Notre Dieu, on te remercie parce que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés. On te remercie parce qu'en lui, on a la vie éternelle, une bonne relation avec toi. En lui, on peut vivre dans la joie, dans la liberté de se savoir aimé par toi, indépendamment de nos performances spirituelles. Aide-nous, notre Dieu, à retrouver cette joie, à combattre pour cette joie, pour cette liberté, en restant attachés au vrai évangile. Et on prie cela pour la gloire de Jésus. Amen.